Vous écoutez On lit pour vous.
Hommage aux aînés qui ont ouvert la voie. Du fond du cœur, merci. Un texte de Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Parler de nos anciens, c'est rendre hommage à ceux qui ont posé les fondations de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap, mais aussi à ce qu'est devenu Mémo Québec. C'est nous rappeler qu'avant nous, il y a eu des personnes qui ont mis toutes leurs énergies dans un engagement et que, malgré leur vulnérabilité et l'obligation de garder le lit ou d'être dans un fauteuil, elles se sont tenues debout. En soulignant ces personnes-là, il faut dire aussi que malheureusement, nous ne pourrons pas parler individuellement de tous ceux et celles qui ont fait une différence, car ils sont nombreux. Nous nous en excusons à l'avance. Notre objectif est de rendre hommage à toutes les personnes anonymes qui ont donné des heures, des mois, voire des années de leur temps pour faire en sorte que leurs semblables aient de meilleures conditions de vie et soient considérés comme des citoyens à part entière. Ce sont ces personnes qui ont ouvert la voie vers une compréhension plus grande de ce qu'est le vécu et surtout les besoins des personnes paraplégiques, tétraplégiques et de toutes les personnes en situation de handicap en général. Nous voulons nous souvenir des Marie, des René, des Errol, des Marie-Blanche et de tous les autres. Nous les saluons et nous leur disons chapeau bas pour tous leurs accomplissements. Nous sommes ce que nous sommes devenus grâce à vous. Les avancées que nous avons obtenues, mais aussi les rêves que nous avons toujours, sont en grande partie là grâce à vous. Il faut aussi nous rappeler tout le chemin parcouru. À la création de l'organisme, nous sortions des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Les premières revendications des paraplégiques étaient seulement d'avoir le droit d'exister. Plus tard, ils ont cherché à avoir une place dans la société. Jusqu'à aujourd'hui, où nous voyons l'inclusion, la dignité, l'épanouissement et la contribution à la société, dans la mesure du possible, comme un droit. Même si la société a encore une dette envers les personnes en situation de handicap, nous ne pouvons pas nier les avancées qui ont été la plupart du temps gagnées, arrachées, à la suite d'actions menées par les premiers concernés. Il est important d'ajouter que dans ce portrait-là, chacun a peut-être une vision limitée de son action qui pourrait lui sembler petite ou de moindre importance, mais si nous regardons le portrait global, nous voyons que c'est d'une action après l'autre que nous sommes parvenus à avoir ce que nous avons maintenant. Nous sommes conscients que les acquis sont fragiles et que nous avons la responsabilité de les consolider. En 2026, Mémo Québec souffle ses 80 bougies. Cela fait 80 ans que des hommes et des femmes ont fait vivre, ont fait avancer, ont consolidé une organisation qu'ils ont montée de toutes pièces et qu'ils voulaient à leur image. Les personnes qui sont ici maintenant, nous, les héritiers de cet engagement profond, souhaitons de tout cœur être à la hauteur de leurs attentes et aspirons à ce qu'ils continuent à être une inspiration pour nous tous. Walter Zelaya travaille dans le milieu communautaire depuis 1990. Après quelques années en intervention, il assume des postes de coordination et de direction. Il est le directeur général de Mémo Québec depuis 2003. C'était « Hommage aux aînés qui ont ouvert la voie. Du fond du cœur, merci ». Un texte de Walter Zelaya, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026.
Des voix qui portent. Un texte de Perlina Rossi Brown, paru le 21 juin 2026 dans La Presse. Elles sont vite à bout de souffle, mais ça ne les empêche pas de chanter. Chacune des voix est affaiblie, mais ensemble, elles résonnent fort. Pour les membres de la chorale pulmonaire de Laval, tous atteints d'essoufflement chronique, chanter n'est pas qu'un loisir. Cela leur permet surtout de travailler leur capacité respiratoire. Pour un instant, j'ai respiré très fort. Ça m'a permis de visiter mon corps. Les paroles composées par Serge Fiori et Michel Normandeau prennent tout leur sens lorsqu'elles sont chantées par la douzaine de membres de la chorale pulmonaire lors de leur concert de fin de session. Après 2 mois et demi à travailler leur capacité respiratoire au moyen du chant, à raison d'une fois par semaine, les choristes ont pu présenter le fruit de leur travail à la mi-juin au Centre du Sablon de Laval. La presse a assisté à leur concert. Maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, fibrose pulmonaire, asthme, bronchiectasie. Les participants souffrent d'affections diverses. Peu importe la maladie, il y a bien des deuils qu'on doit faire, confie la choriste Francine Ranger. Et là-dessus, on se comprend les uns les autres. Atteinte de bronchiectasie, Francine explique que, comme certains de ses camarades, elle n'est plus en mesure de garder le rythme dans certaines activités sociales exigeant un effort physique. On n'arrive plus à marcher au même pas que les autres. C'est comme respirer avec une paille dans la bouche. Pour ces personnes âgées, qui forment la grande majorité du groupe, la chorale permet aussi de briser l'isolement. Une façon pour elles de rencontrer des gens qui vivent la même chose, qui sont essoufflés eux aussi, explique la chef de chœur de la chorale pulmonaire, Eva Nadon, également neuropsychologue. Micheline Turcotte, elle, est en deuil de sa vie de sportive en raison de sa fibrose pulmonaire. « Il y a encore 2 ans, je jouais régulièrement au golf. J'ai encore tout mon équipement. » Malgré tout, Micheline choisit de se tourner vers ce qui lui est encore accessible, comme la chanson. C'est pourquoi, en ce vendredi après-midi, elle a bravé l'humidité et la chaleur, de vrais ennemis pour ses poumons, pour déployer sa voix dans le sous-sol frais du Centre du Sablon. Pérenniser le chant pulmonaire. C'est en tombant sur un reportage de Radio-Canada sur la chorale Respire-Cœur de Sherbrooke que la kinésiologue Chantal Denis a eu l'idée de la reproduire à Laval. Sa chorale pulmonaire est donc la seconde du genre au Québec. Madame Denis déplore qu'il existe peu de structures de maintien post-programme de réadaptation pulmonaire, notamment à l'hôpital juif de réadaptation où elle travaille. Ces patients sont peu encouragés à travailler pour conserver les acquis qu'ils y ont faits. Une fois les 10 à 12 semaines de réadaptation pulmonaire terminées, leur motivation diminue pour continuer à pratiquer les exercices respiratoires ou physiques enseignés. Souvent, ce qu'on voit, dit la kinésiologue, c'est que ces gens-là reviennent dans la boucle de la réadaptation. On a des listes d'attente énormes et on n'arrive pas à les reprendre, puis à les aider à faire de l'auto-prise en charge de leurs conditions. La liste d'attente externe en réadaptation pulmonaire compte actuellement 100 de patients de Santé Québec Laval, anciennement CI3S de Laval, et le délai d'attente oscille entre 9 et 12 mois. Eva Nadon et Chantal Denis espèrent bâtir un partenariat formel avec le système de santé. Il y a déjà des pneumologues de Santé Québec Laval qui ont orienté des patients spécifiquement vers la chorale, se réjouissent-elles. Un concert à forte personnalité. Revenons au Centre du Sablon. L'excitation est palpable chez les choristes juste avant l'arrivée de leur public. Aujourd'hui, le chœur est exclusivement féminin. 3 membres manquent à l'appel, dont les 2 seuls hommes du groupe. Chantal Denis en profite pour réchauffer les pratiquantes avec des étirements et des exercices respiratoires qui ouvrent la cage thoracique et stimulent le diaphragme. « Vous êtes belle », leur lance-t-elle tout sourire. Suivent des exercices vocaux guidés par leur chef. Les notes poussées par les chanteuses, d'abord timides, se déploient graduellement. Certaines semblent même étonnées par leur propre prestation. Une 20aine de spectateurs, amis, familles, employés du Centre du Sablon et même représentants de partis politiques locaux s'installent dans le local. Ça parle, ça rit, jusqu'à ce qu'une poignée de choristes impose le silence aux invités. « On a un groupe au caractère fort, et c'est ça qu'on aime d'elle », réagit Chantal Denis en riant. La preuve, ça n'a pas toujours été facile de s'entendre sur le choix des chansons, a-t-elle confié. Le répertoire de morceaux est donc à l'image de l'ambition des choristes pulmonaires. Elles enchaînent des chansons au style et au rythme variés devant leur public enthousiaste. Ça va d'Harmonium à Michel Fugain, en passant par les Beatles. Francine Ranger trouve cette variété stimulante sur le plan cognitif. La mémoire, c'est important pour les chansons. C'est un défi pour nous. À l'issue du concert, Maryse Salvas, atteinte d'emphysème et d'asthme, se sent bien et dégagée physiquement comme mentalement, comme toujours à la fin des rencontres. La pétillante sexagénaire dit avoir hâte de revenir à l'automne pour chanter avec sa nouvelle gang. Elle n'est pas la seule. En partant, toutes les choristes, sans exception, se sont donné rendez-vous. À la session prochaine. Le chant à l'étude. Selon une étude de la musico-gérontologue Louise Drouin de l'Université de Sherbrooke, bien que le chant ait peu d'incidence sur la distance effectuée lors des tests de marche des programmes de réadaptation pulmonaire, celui-ci agit directement sur la perception de la maladie. Cette étude, publiée en 2021, compare un groupe de chant choral à un groupe de réadaptation pulmonaire classique sur 12 semaines. Nicole Marquis, physiothérapeute ayant créé la chorale Respire-Cœur, qui est au centre de ce projet de recherche, explique « On n'a pas vu d'amélioration au test de marche 6 minutes, mais au niveau de la qualité de vie et de la perception d'essoufflement, c'était comparable à la réadaptation pulmonaire. » C'était « Des voix qui portent », un texte de Perlina Rossi-Brown, paru le 21 juin 2026 dans la presse.
Une nouvelle vie. Un texte de Michel Temmens, administrateur, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Mon accident s'est produit en 2011, à l'âge de 54 ans, au moment où tout allait bien dans ma vie. J'étais fort d'une expérience de 36 ans dans plusieurs domaines, dont l'imprimerie, et à la tête d'une agence en communication dont j'étais co-actionnaire avec ma conjointe. À la suite de mon accident, j'ai dû apprivoiser ce nouveau corps qui, toute sa vie, s'était entraîné à la pratique d'une multitude de sports sur une base régulière, jogging, ski hors piste, vélo, natation, hockey, etc., à un niveau parfois extrême. Mes douleurs chroniques m'ont volé tous ces plaisirs. Lors de mon processus de réadaptation, j'ai rapidement compris que je devais dire au revoir à mon ancienne vie, car j'aurais été incapable d'assumer mes anciennes responsabilités, des semaines de travail de 60 heures et toute la pression qu'une agence en communication peut demander. Quand je suis revenue à mon appartement, j'ai réalisé toutes les étapes auxquelles je devrais faire face. Mon appartement était non adaptable. J'ai dû le mettre en vente, me trouver un nouvel appartement et l'adapter sur plan. Pendant tout ce processus qui a duré plus de 16 mois, je me demandais bien quelle orientation prendrait ma vie. Par chance, j'ai été soutenue par ma conjointe et mes enfants et je le suis encore aujourd'hui. Je dirais donc qu'une grande partie du mérite de ma réadaptation leur revient, car ils croyaient en moi. C'est à partir de ce moment que je me suis dit que j'étais prêt à redonner à la société. Je réalisais que, malgré le fait que j'étais devenue paraplégique à 54 ans, j'avais quand même eu la chance de voyager, d'élever une famille extraordinaire et de m'être accompli au niveau professionnel. Je me considérais vraiment chanceux d'avoir eu une vie riche à tout point de vue. Alors, j'ai commencé à m'impliquer à un ou deux comités. J'ai parfois même fait partie de 4 comités en même temps. Et plus je m'impliquais, plus je me sentais bien. J'avais l'impression que mon apport pouvait faire la différence, sans oublier un aspect thérapeutique qui me faisait accepter ce qui m'était arrivé et tous les efforts que ma paraplégie et ses douleurs chroniques au quotidien me demandaient. Cela me donnait de l'espoir. En 2018, j'ai reçu un appel de Walter Zelaya qui voulait me rencontrer dans le but que je rejoigne le conseil d'administration de Mémo Québec. Je ne me souviens pas des circonstances, mais en tant qu'entrepreneur, je doutais de la pertinence de mon apport au sein d'un OBNL. Walter, lui, en était convaincu. Alors, je n'ai pas été difficile à convaincre et tout le mérite lui revient. Mon apport au sein du CA se fait à différents niveaux. J'aime les chiffres et j'ai toujours eu un penchant naturel pour les litiges. Bref, Je me sens stimulée en tout point et, à Mémo Québec, l'espoir prend tout son sens car je peux vraiment ressentir que nous travaillons à améliorer le bien-être de nos membres, à défendre leurs droits et ce, dans les nombreuses facettes du quotidien d'un blessé médulaire. À la suite de mon implication, je me suis rapprochée de notre communauté, de la vie au quotidien d'une personne handicapée, quel que soit son handicap, de ses deuils, de ses défis et souvent du manque d'espoir en la vie. C'est un sentiment tout à fait compréhensible car les défis sont grands et souvent teintés par différents obstacles. Ces défis sont autant au niveau des droits que de la qualité des soins, des services de plus en plus minimisés, des coupures aléatoires dans le matériel, sans oublier les déplacements au quotidien dans un environnement parfois hostile qui nous demande de gros efforts. L'aspect le plus important et probablement le plus grand défi, c'est de travailler sur soi, de travailler à se bâtir une confiance, à se faire une carapace contre les défis que nous rencontrons tous les jours, et ce, dans un seul but, l'espoir, oui, l'espoir que les choses se placent, l'espoir que notre santé se stabilise, l'espoir d'arriver à avoir une vie normale au quotidien, l'espoir de réaliser ses rêves, et aussi l'espoir de vivre à la hauteur de ses ambitions. Je vous le souhaite à vous toutes et tous. C'était « Une nouvelle vie », un texte de Michel Temmens, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Taros, les spectaculaires ruines romaines qui dominent la mer en Sardaigne. Un texte de Agnès Bugin, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science. Depuis des siècles, la mer et la pierre dialoguent sur la côte sarde, mêlant leurs voix entre les vestiges de Taros. Parmi les colonnes brisées et les dalles blanchies par le soleil, le vent s'engouffre, porteur de récits oubliés. À chaque marée, les vagues effleurent les ruines antiques, comme pour réveiller la mémoire romaine assoupie sur le rivage, où l'histoire murmure encore à qui sait écouter. Trésor d'escale. Il est des lieux qui s'offrent comme des confidences, un retour historique, un édifice aux pierres ouvertes sur la mer, vestige de Taros, où les ruines romaines dialoguent encore avec le vent et la lumière. Ces trésors ne s'imposent pas. Il se murmure au voyageur attentif, à celui qui sait lire, dans les colonnes brisées et les mosaïques effleurées par le sel, l'empreinte secrète du temps. Découvrir ces instants suspendus, c'est ouvrir une parenthèse où l'art, l'histoire et la mémoire s'entrelacent, offrant l'âme d'un monde ancien à portée de regard. Un lieu tourné vers la mer et le temps. Il existe des lieux où chaque pierre est un témoin, chaque ruine une phrase, et le vent une voix ancienne. Taros est de ceux-là. Situé à l'extrémité de la péninsule de Capo San Marco, sur la côte ouest de la Sardaigne, Taros semble regarder la mer autant qu'elle s'en souvient. Et si les colonnes romaines qui se dressent au bord de l'eau captent l'œil en premier, elles ne sont que le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne. Avant Rome, les pierres du bronze. Avant Rome, avant Carthage, avant même l'écriture, l'époque nuragique. La péninsule fut habitée dès le bronze moyen, entre 1600 et 1300 avant Jésus-Christ, et a livré les vestiges d'un habitat ancien, notamment sur la colline de Sumuru Manu, point culminant du site. Là, sous ce qui deviendra plus tard le Tophet phénicien punique, les archéologues ont mis au jour les traces d'un établissement préhistorique, un village accroché à la roche, habité par des hommes qui regardaient déjà vers la mer. Les civilisations venues par les flots. Puis vinrent les Phéniciens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, commerçants de lumière et de sel, qui fondèrent ici un port tourné vers le large. suivi par les Carthaginois, puis les Romains, qui structurèrent la ville, routes dallées, thermes, citernes, sanctuaires. Les vestiges de leur construction courent aujourd'hui encore le long du rivage, se dressant par moments, s'effaçant ailleurs sous le sable doré. Ce que la mer garde encore. Sous la surface, Taros se prolonge encore. Les archéologues ont retrouvé, immergés dans les eaux claires qui bordent la côte, des fragments de colonnes, des dalles, des morceaux d'amphores brisés, vestiges dispersés du port antique. À marée calme, on devine les traces d'anciens quais ou de structures côtières rongées par le sel. Rien de monumental, mais assez pour sentir que la ville, comme une pensée profonde, continue sous l'eau. Le rivage avance, la mer reprend, et les ruines s'enfoncent lentement dans un autre temps. Marche lente dans le présent du passé. Ici, on marche dans le vent, sur des fragments d'histoire, au milieu de parfums de myrte, de pierres chaudes et d'air salé. Le regard va de la mer à la terre, de l'ombre d'un mur à la ligne parfaite de l'horizon. Il n'y a plus de frontières entre les civilisations passées, les éléments et nous. Tout se mêle. Taros, c'est la beauté intacte du temps qui passe et qui pourtant, ici, ne s'efface pas. C'était Taros, les spectaculaires ruines romaines qui dominent la mer en Sardaigne. Un texte de Agnès Bugin, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science.
Beau succès pour le premier forum sur l'habitation des personnes en situation de handicap. Un texte paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Le Forum Habitation, enjeux et actions, organisé par Mémo Québec et le CODD-PSH, le collectif des organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, a connu un franc succès ce mardi 31 mars. Toute la journée, une soixantaine de personnes en situation de handicap ont travaillé en sous-groupe pour témoigner et discuter des enjeux qu'elles vivent en termes d'habitation, des solutions pertinentes à leur situation et des actions à organiser pour changer les choses collectivement. La quantité et la qualité des solutions proposées dépassent nos espérances, tout comme la volonté de prendre part à nos actions. Dans les prochains jours, un compte-rendu sera diffusé afin de conserver une trace des propositions discutées, accompagné de clips vidéo illustrant l'ampleur du travail accompli lors de cette journée. Deux forums virtuels auront lieu prochainement pour permettre aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer le 31 mars de participer, en vue du lancement d'une grande campagne nationale pour le droit au logement des personnes en situation de handicap dès septembre. En un mot, c'est parti! Et restez à l'affût pour la suite. C'était « Beau succès pour le premier forum sur l'habitation des personnes en situation de handicap », un texte paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Inégalité face au changement. Un texte de Raphaël Corbeil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Les régions du Québec sont-elles prêtes à affronter les changements climatiques? Un nouvel indice met en lumière des inégalités importantes. Sécheresse, ravageurs, inondations et vagues de chaleur fragilisent la production agricole. Sous la direction de Terence Époulé-Époulé, professeur en agroclimatologie et adaptation au changement climatique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, une équipe a mis au point un indice pour évaluer la capacité d'adaptation au changement climatique de 6 régions du Québec. L'étude, récemment publiée dans Nature Scientific Reports, a permis de recenser celles qui sont les mieux et les moins bien préparées à faire face à ces défis. En quoi consiste cet indice et sur quelles données s'appuie-t-il? Cet indice est un nouvel outil permettant aux chercheurs et chercheuses, aux gouvernements, aux agriculteurs et agricultrices, etc., de suivre et d'évaluer la préparation du Québec face aux facteurs de stress et aux extrêmes climatiques. Cet indice repose sur des données climatiques telles que les précipitations, la température et les jours de gel, et sur des indicateurs de capacité d'adaptation, comme la littératie climatique et le revenu des ménages agricoles. Ainsi, la préparation à l'adaptation dépend des conditions climatiques, qui sont relativement faciles à évaluer, mais aussi de la capacité d'adaptation des régions, ce qui n'est pas simple à mesurer. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur des variables indirectes, soit les taux d'alphabétisation et de pauvreté. Ces variables exercent une influence transversale sur la plupart des secteurs. L'objectif était de déterminer quelles régions parmi six sont les mieux préparées au changement climatique. Qu'avez-vous découvert? Nos résultats montrent que les agriculteurs et agricultrices des régions centrales, comme le centre du Québec, la Montérégie et l'Estrie, sont mieux préparés au changement climatique que ceux des régions périphériques, comme l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans les régions périphériques, le niveau de connaissance climatique est plus faible et le taux de pauvreté est plus élevé que dans les régions centrales. Comment ce nouvel indice pourrait-il aider la province à se préparer? Cet indice met en évidence le fait que l'amélioration des conditions socio-économiques des producteurs et productrices est le meilleur moyen de renforcer la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique. Cela exige une meilleure connaissance et une meilleure sensibilisation au climat. Un ménage est moins vulnérable lorsqu'il dispose de réseaux lui permettant d'obtenir des informations sur le stress climatique, de lire et de comprendre les données météorologiques ou tout simplement d'accéder aux résultats de recherche tels que les nôtres. Par ailleurs, les productrices et producteurs situés dans des régions plus prospères ont généralement un meilleur accès à des variétés résistantes à la sécheresse et à des infrastructures comme l'irrigation, ce qui renforce leur capacité d'adaptation. Il est fortement recommandé que les mesures politiques se concentrent sur ces indicateurs socio-économiques qui contribueront à bâtir des systèmes agricoles résilients. C'était « Inégalité face au changement ». Un texte de Raphaël Corbeil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.